L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Après plusieurs émissions concernant les contes de fées, le rôle important qu'ils occupent dans l'éducation de l'enfant, l'aide qu'ils lui apportent pour grandir, émissions qui ont été réalisées avec Catherine et Sandy, nos conteuses émérites, il me semble qu'il est temps de donner la parole aux parents. Loin des théories, l'éducation bienveillante, Montessori, dont je vous ai déjà parlé, j'aimerais maintenant en venir à l'éducation quotidienne. Terre à terre, si l'on peut dire. Comment un parent agit dans les actions quotidiennes? A-t-il une ligne directrice qui le guide? Comment parle-t-il à son enfant? Et quand son enfant ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait? À travers le quotidien, va probablement se dessiner alors l'image que le parent a de lui-même et comment il considère l'enfance et comment il voit son rôle éducatif. Alors ceci pour vous proposer aujourd'hui une rencontre avec deux papas, Christophe et Sylvain, qui vont se présenter eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont gentiment accepté cet échange à bâton rompu. Bon, il faut dire que Christophe, c'est quand même notre technicien préféré, et unique d'ailleurs. Donc, pour faciliter la discussion, je vais leur faire entendre plusieurs extraits des émissions de Françoise Dolto sur France Inter, il y a déjà 40 ans, mais c'est quand même très intéressant et ça va nous servir à commencer la discussion. Et après chaque extrait, je leur demanderai ce qu'ils en pensent, comment ils feraient à ce sujet, et puis surtout je les laisserai discuter ensuite, librement. Donc les extraits que vous allez entendre concernent le parler au bébé, le rôle et la place des parents, l'ordre, la nourriture, manger de tout ou pas, le coucher, et puis le dernier que j'ai intitulé « Parler d'amour ». Donc ces échanges feront l'objet, je pense, de deux émissions. Alors une dernière remarque avant de laisser la parole au papa, je n'oublie pas les mamans. Les prochaines émissions sont pour elles, et je leur proposerai le même schéma qu'aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant que sur les mêmes sujets, on voit peut-être des réponses un petit peu différentes. D'ailleurs, les mamans, si vous êtes intéressées pour participer à l'éducation buissonnière, vous pouvez appeler le répondeur de Radio Barthas au 04 66 47 06 92. Je répète parce que vraiment j'aimerais beaucoup avoir plusieurs mamans que je ne connais pas, c'est plus intéressant. 04 66 47 06 92. Et maintenant, place au papa.
D'abord il y a la petite graine à papa qui va dans maman gentiment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et 9 mois après, tu es prêt. Et on te dit je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé d'amour. Tu bouges beaucoup, tu donnes des petits coups, ça n'est pas méchant pour maman. Mais tu tournes en rond, tu trouves le temps long, tu frappes à la porte, faut que tu sortes. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé d'amour. Tout est préparé pour ton arrivée, le monde t'attend en chantant. Et jour après jour, tu deviens plus lourd, maman s'arrondit, tu grandis. Et on te dit, je t'aime. deux petits petons tellement mignons, de menus menottes qui gigotent. Et te voilà là, et on n'y croit pas, t'es notre plus beau des cadeaux. Et on te dit je t'aime, je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé d'amour. Tu pleures et tu cries, c'est comme ça la vie, nous aussi on pleure de bonheur. Tu pleures et tu cries, c'est comme ça la vie, nous aussi on pleure de bonheur. Et on te dit je t'aimerai toujours. Et on te dit je t'aime, notre bébé.
Donc, le premier extrait, parler au bébé.
Françoise Dolto, vous vous souvenez récemment, vous aviez répondu à quelques lettres amusées, hein, entre guillemets, d'auditrices ou d'auditeurs qui disaient que vous alliez quand même un peu fort en disant que quand un enfant naissait, finalement, c'est parce qu'il avait le désir de naître. Alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut peut-être répondre à d'autres lettres, par exemple, celle d'une auditrice qui dit, enfin, est-ce que vous n'allez pas vraiment trop loin quand vous conseillez de parler, toujours parler aux enfants, mais parler à un enfant de 10 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, or, c'est vrai que vous, tous les jours, vous le dites pratiquement ici même, et que tous les jours, il y a des lettres aussi de parents qui vous confirment dans cette opinion.
Oui.
Des témoignages.
Et qui confirment et qui disent, depuis que je lui parle, la situation a totalement changé entre nous. Alors, je ne sais pas très bien comment répondre à ces personnes qui sont tellement profondément convaincues qu'un bébé est un débile, alors que spirituellement et psychiquement, c'est notre égal, et parfois notre supérieur, puisque les enfants qui deviennent des gens de très grande valeur, eh bien, ils avaient cette valeur à la naissance. Bien sûr, ils l'ont développée dans un sens qui est utile à la société. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des gens de valeur. Mais à mon avis, les enfants sont très intelligents et par une même personne est à sa naissance presque plus intelligente qu'elle ne le sera plus tard, bien qu'elle n'ait pas les moyens de l'exprimer. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a jamais assez de respect pour un être humain qui est dans la parole depuis la vie fœtale, et qui a toujours entendu des grandes personnes parler entre elles. Et la seule manière de respecter un être humain depuis son petit âge, c'est de lui parler, qu'il entende ou non. Ceci prouve, de la part de l'adulte, qu'il le considère comme un interlocuteur valable. Et c'est cette attitude-là que les parents doivent prendre très tôt. Parce que quand est-ce qu'ils vont commencer à parler à leur enfant s'il ne commence pas dès qu'il est petit ? Il n'y aura pas un jour J où ils vont se dire, tiens, il comprend. Alors, il faut savoir que quand un enfant commence à parler une langue, c'est qu'il y a 9 mois, ou au moins 9 mois, où s'organise le langage, c'est-à-dire qu'il l'entend, bien qu'il ne puisse pas le parler. Alors, pourquoi ne pas lui parler comme à une personne aussi valable que les voisins que nous rencontrons et à qui nous parlons ?
Voilà. Alors évidemment, ça date un petit peu, je pense, parce que maintenant, on a quand même beaucoup intégré que parler au bébé, c'est vraiment fondamental. Mais derrière le langage, il y a aussi tout la façon dont on considère l'enfant.
L'attention.
Comme un égal et tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Le fait de lui parler, pour moi, c'est déjà lui accorder de l'attention. C'est déjà lui apprendre aussi le langage. Parce que si on ne parle pas aux enfants, derrière, le langage ne va pas évoluer, ne va pas s'intégrer.
Mmh. Oui, moi, dans mon expérience, on a évité avec ma compagne de lui parler en are, gouzi gouzi, zazou zazou. On lui a de suite parlé normalement, quoi. Et je ne sais pas si c'est par de ce fait-là, mais elle s'est mise à parler relativement tôt, quoi.
Oui.
Ouais. Donc voilà, oui.
Et puis le fait de parler are, ce qui est compliqué, c'est que du coup l'enfant a besoin d'apprendre deux fois le langage.
Oui.
Parce que si on lui apprend le mot Si on lui dit pour la soupe, je sais pas, la poupou, ben, il faudra d'abord qu'il apprenne que c'est la poupou, puis après il faudra qu'il apprenne que c'est la soupe. C'est quand même dommage.
Mmh. Bon, après, d'après Dolto, vu qu'il est intelligent, oui. Le bébé, il arrive à...
Même là, ça fait une surcharge quand même.
Non, pas de souci.
Oui, mais bon, je pense qu'il y a, à travers le langage, il y a aussi toute la façon de considérer l'enfant comme un égal et pas comme... Pour Dolto, l'enfant, c'est une personne en devenir. D'ailleurs, l'enfant est une personne.
C'est déjà une personne.
C'est déjà une personne, mais je pense qu'à son époque, enfin moi, quand j'étais enfant, on ne considérait pas les enfants comme... Enfin, pas tout le monde, hein. On n'était pas vraiment des personnes. On était là pour écouter, surtout se taire, et puis voilà, obéir, et puis basta. Le reste, ça viendra plus tard. Bah oui, mais...
Et puis, il y a eu mai 68, qui a enfin considéré peut-être ouais. Les enfants comme une personne à part entière.
Oui, il y a eu des gens qui se sont emparés de l'esprit de liberté pour... Dolto, elle a travaillé avant 68, donc...
Mais dans la société française, quoi, ça s'est un peu dénoué après ce moment-là, quoi.
Oui, bien sûr. Mais bon, moi, je pense que dans le langage, il n'y a pas seulement le fait de se dire il faut parler à l'enfant parce qu'il va apprendre à parler. Oui, ça c'est sûr.
Il
n'y
a pas que ça, c'est un des aspects.
Mais il y a des aspects plus importants peut-être. Enfin, c'est important, mais...
L'attention, l'échange, c'est-à-dire que, comme elle disait, il comprend petit à petit ce qu'on peut lui dire. Il va nous répondre par des signaux, juste des regards. Quand on va parler à notre enfant et qu'il va ouvrir les yeux, nous regarder... Il y aura beaucoup plus dans son regard que peut-être dans des paroles qu'on pourrait avoir d'un adulte.
Oui, enfin, on peut dire que c'est un langage aussi. C'est vrai.
Mais c'est un langage.
Oui, il n'y a pas que le parler, les paroles. C'est tout le...
Ah ben non, moi, j'ai une expérience. C'est toujours ma compagne qui ouvre un livre pour une des premières fois avec une histoire super intéressante. Et elle montre du doigt à ma fille l'image et ce que ça racontait. Et j'ai eu ma gamine, mais j'ai pris des photos tellement c'était extraordinaire. Elle s'est mise à écarquiller des yeux. Mais genre, c'était une révolution pour elle. C'était ça. Elle découvrait un monde absolument fabuleux, quoi.
Ouais. Ah ouais, ça c'est...
Et pourtant, elle babillait pas. Elle disait elle avait moins d'un an, donc elle babillait pas ni rien. Mais du fait de ses yeux, d'écarquiller ses yeux, tout ça, on comprenait que c'était... qu'elle commençait à avoir un maximum d'informations et que ça lui plaisait et qu'elle découvrait vraiment quelque chose, quoi.
Oui. Mmh. Et oui, c'est sûr que des expériences comme ça, c'est quand même fondamental. Hein. C'est...
Oui.
Et pour la suite aussi, parce que pour le lien avec l'enfant, c'est... Surtout les papas, je pense. Les mamans, on a d'autres liens aussi.
Déjà, il y a un lien qui
charnel,
est là, de base, charnel.
Oui.
Mais un papa doit le créer, le lien. Mm-hmm. Et quand il l'a créé, et qu'après, petit à petit, on le voit vraiment présent, c'est, mm-hmm. ça vaut vraiment le coup.
Hein. Ouais, nous, on arrive peut-être à le créer par le jeu. Donc, c'est plus nos relations, c'est peut-être un peu plus ludique. La maman, ça va... Alors, c'est toujours comme ça aujourd'hui, les choses évoluent, hein, mais... C'est peut-être la maman, c'est peut-être plus le câlin, quoi, que l'enfant vient nous câliner et tout, quoi. Mais moi, je sais que quand ma fille, elle a envie de jouer, c'est vers moi qu'elle arrive directement, quoi. Et, nous, on noue vraiment une relation à travers ça. Puis elle sait qu'à travers le jeu, on va apprendre plein de choses.
Oui, et Sylvain, ça...
Le jeu, oui, aussi. Ouais. C'est vrai. Les câlins, il y en a quand même beaucoup.
Oh, je pense que les filles avec leur père, quand
ouais,
même.
Ouais, moi j'ai deux filles, effectivement.
Elles aiment bien les câlins.
Elles aiment bien les câlins et moi aussi.
Ah oui, bah, bien sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon.
C'est peut-être la différence qu'il y a avec, avec l'époque où Dolto cherchait un petit peu. Ouais. Peut-être les papas étaient moins dans le câlin, je ne sais pas.
Il faut pas non plus systématiser, mais je pense que avant les papas représentaient beaucoup plus l'autorité. Mm-hmm. Donc, mais moi je me souviens quand ma fille était chez une assistante maternelle, donc ça fait 35 ans. Et ben l'assistante maternelle c'était pas ma fille parce qu'elle la maltraitait pas, mais ses enfants à elle qui avaient l'âge de ma, il y en avait un qui avait l'âge de ma fille. Quand il faisait une bêtise, elle lui disait ah mais papa va rentrer ce soir, tu vas voir, t'auras la ceinture.
ou la menace.
Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, moi j'ai vite demandé à ce que ma fille aille chez quelqu'un d'autre parce que je trouve que. Non, elle le faisait pas avec ma fille, mais c'est pas une méthode d'éducation, ça. Alors, le père, il travaille toute la journée, en plus, il rentre et il faut qu'il fasse la police parce que sa femme n'est pas capable de se faire respecter ou d'aimer les enfants. C'est quand même.
C'est vraiment dommage, oui.
C'est vraiment.
Et puis, peut-être à travers ça, moi, ce que je me suis aperçu de ma petite existence, c'est que le mal qu'on a reçu, c'est ensuite quelque chose qu'on va donner. C'est-à-dire qu'on a eu des méthodes d'éducation comme ça et des façons de s'exprimer comme ça, la colère, on va parler de la fessée, bon là la ceinture c'est quand même, je trouve ça un peu extrême.
C'est extrême, oui.
C'est peut-être après une maman ou un papa qui va donner la fessée, les coups de ceinture aussi quoi. Quand on est vraiment tout jeune, je pense qu'on est vraiment une éponge quoi. Et toutes les informations qu'on reçoit de l'extérieur, on les assimile.
Tu veux dire un enfant à qui on fait des violences risque d'être un parent violent, oui.
Je pense.
Pas tous.
Je dis pas tous, mais.
Ou alors au contraire le contraire complètement. Enfin bon, on est parti un peu plus loin que le parler au bébé. Alors est-ce qu'on peut, Christophe, écouter le deuxième extrait, s'il te plaît, sur la place des parents?
Alors Françoise Dolto, j'ai d'autres lettres maintenant, et la première parle du comportement des parents devant leurs enfants. C'est une lettre qui vient de Marseille, et l'auditrice vous explique son cas. Elle dit, voilà, depuis sa première année, mon fils est jaloux de mon mari. Alors, elle est mariée depuis 4 ans, elle a 28 ans, son mari en a bientôt 41, donc l'enfant a 3 ans. Et elle dit, cela crée chez nous un climat de tension épouvantable, surtout lorsque nous sommes tous les trois ensemble. Je n'ai pas le caractère, dit-elle, à gâter les enfants ni à céder aux caprices, et mon fils, tout en ne manquant de rien, ni d'affection bien sûr, a été élevé avec poigne. Tout cela sans résultat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle explique, mon mari, lui, qui à 38 ans a eu un enfant et pour qui c'était très important, s'est conduit avec lui de façon radicalement différente, à critiquer devant l'enfant ce que je lui disais. Et maintenant, à 3 ans, voilà une enfant qui n'obéit plus du tout, ni à moi, ni encore moins à son père, et qui en plus, dit la mère, appelle son père par son prénom, ce qui lui retire encore de l'autorité.
Oui.
Voilà un tableau, voilà des gens qui se posent des questions sur la façon d'agir avec leurs enfants.
Oui, c'est vrai que dans cette famille, la mère a le rôle de gendarme et le père le rôle maternant, d'après ce qu'on peut voir.
Absolument, oui.
Mais surtout, le père semble avoir été subjugué par le fait de l'arrivée de ce bébé et... Il se met à sa place et il n'aimerait pas être grondé, ce monsieur. Alors il se mettait à la place du petit qui était grondé par sa maman, d'après ce qu'on voit. Je crois qu'il faut qu'elle en parle à cet enfant et qu'elle lui dise « Écoute, lui, il est mon mari et toi, tu es mon fils. » Et puis que son père lui dit la même chose. Il lui dit « C'est ma femme et quand je suis avec ma femme, j'aimerais que tu me laisses tranquille parce que quand tu seras avec la tienne, je te laisserai tranquille. Entre hommes, on peut faire ça l'un pour l'autre. » Il faut qu'il parle de sa femme et non pas seulement de maman, de papa. Oui,
oui, mais alors cela dit.
C'est un enfant un peu en avance.
Oui, cela dit, je crois que ça intéresse beaucoup de ceux qui vous écoutent parce qu'elle explique par exemple qu'elle a élevé cet enfant avec poigne. Est-ce qu'on peut élever avec poigne un enfant qui n'a pas encore 3 ans ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce qu'il y a aussi d'autres lettres dans le courrier d'auditeurs qui disent, qui vous demandent votre avis sur les façons modernes, c'est ce qu'ils disent, entre guillemets, d'élever les enfants, c'est-à-dire le laisser-faire total. Alors,
c'est pas plus
où est la frontière entre le laisser-faire et la poigne ?
C'est de parler intelligemment avec un enfant et. Quelqu'un qui rit ou qui se moque de ce qu'un adulte dit à l'autre, je ne peux pas appeler ça avoir respecté l'enfant ni respecté l'adulte. Au fond, ils sont comme des enfants, ces trois personnes. Elle a beau dire que son mari est beaucoup plus âgé qu'elle, j'ai l'impression qu'ils sont comme des enfants avec l'enfant et qu'il se sent à leur niveau. Je pense que la meilleure des choses, ça serait de le mettre pendant la journée ailleurs.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
De ce que j'ai entendu plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que chacun doit avoir sa place dans la famille. On ne doit pas être totalement effacé. On ne doit pas être que des parents. Ça, c'est important. L'autre chose importante, c'est que on doit être cohérent l'un avec l'autre.
Ouais.
Si maman dit quelque chose et que papa dit autre chose, l'autorité est totalement sapée. Enfin, à mon avis, de mon expérience, je sais qu'avec ma femme, on est souvent du même avis. Des fois, pas forcément, mais c'est pas devant l'enfant qu'on va l'exprimer.
Oui, c'est ça, c'est en dehors.
C'est en dehors.
Il faut que pour l'enfant, il faut que ce soit clair. De toute façon, pour un enfant, c'est noir ou c'est blanc. C'est pas gris non plus. Hein. Donc, il faut qu'il sache exactement.
Ouais. Et puis, comme on disait... Comme disait Françoise Dolto avant, c'est l'enfant, il est intelligent. Et moi, je sais que, par exemple, je suis dans une autre pièce et puis, ah maman, est-ce que je peux avoir un bonbon ? Maman, elle dit non. Puis moi, j'arrive dans la pièce et puis ma compagne est sortie et puis, papa, est-ce que je peux avoir un bonbon ? Moi, je dis oui. Et ben ça, l'enfant, il le capte très vite et puis après, il en joue de ces situations. Quoi.
Ah oui.
Donc c'est bien, je pense que c'est... Il faut vraiment avoir toujours un dialogue cohérent et puis que papa et maman soient d'accord ensemble. Quand on dit non, que l'autre parent dise non. Voilà, comme ça, l'enfant, il sait qu'il n'a pas...
Sinon, tu vas être transformé en distributeur de bonbons. Hein.
Oui. Donc, oui. Puis après, c'est les bonbons, puis après, c'est autre chose. Oui, ça, c'est le jeu, c'est le coucher, c'est...
Voilà. Oui, mais bon, je pense, moi j'ai entendu dans certaines familles le père qui ne respectait pas les décisions de sa femme.
Mm-hmm.
Même s'il n'est pas d'accord, je pense que devant l'enfant,
c'est ça.
On n'a pas ça, Sylvain, on n'a pas à le dire. Après,
moi,
ce
qu'il arrive des fois, c'est que ma petite me demandait quelque chose et maman est d'accord. Et à ce moment-là, non, parce qu'elle sait que je vais poser la question ensuite.
Et est-ce qu'elle arrive à te dire oui, maman est d'accord, alors que maman n'était pas d'accord?
C'est arrivé. Oui. C'est arrivé, mais bon, après, on recadre tranquillement les choses et du coup, elle l'ose moins.
Mmh, ouais. Parce que moi, je vois, oui, ma gamine, elle joue quand même là-dessus, quoi.
Elle essaie
d'arriver à ses fins par tous les moyens. C'est là où je me dis que oui, t'es pas bête, il y a pas de souci.
Ah non, bien sûr, mais enfin,
ça fonctionne.
Oui, mais bon, je sais pas ce que vous voyez d'autre. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le terme de poigne. Maman dise, j'éduque avec poigne.
Alors moi, ça me choque, ça me fait penser à du dressage.
Oui, ouais. Moi aussi. Oui, c'est vrai.
Et un enfant, on ne le dresse pas, on l'éduque.
Mm-hmm. Déjà,
c'est-à-dire,
oui.
Moi, je sais que quand on essaie d'inculquer quelque chose à nos filles, on va lui expliquer pourquoi.
Mm-hmm.
Alors, on va lui dire, c'est comme ça, parce que. On ne va pas simplement lui dire, c'est comme ça.
Ouais.
Et pour moi, ça fait une énorme différence.
Oui. Il y a quand même des cas où je trouve qu'on n'a pas à donner d'explication. C'est tous les cas de sécurité, par exemple. Tu vois, par exemple, un enfant petit, il faut qu'il donne la main dans la rue s'il y a de la circulation. Mais bon, on peut lui dire qu'il y a des voitures, évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont quand même intangibles, qu'on peut pas...
Moi, on parfois, peut pas transiger là-dessus, c'est la sécurité.
Parfois, je vois des jeunes parents qui se lancent dans des explications qui n'en finissent plus. Et je me dis que...
Alors, c'est pas forcément parfois, au bord de la route qu'on va le faire.
Non, c'est même pas du tout, en principe.
Non, mais c'est ça, c'est pas non, mais donne la main parce qu'il y a une voiture. Non, là, tu donnes la main, tu viens, on discute après si tu veux.
Oui, c'est ça, voilà. Je veux dire, il y a des cas où, bon, on n'a pas le choix non plus.
C'est ça.
Il faut quand même...
Pour l'exemple de traverser la rue, pour moi, c'est systématique. Que j'ai ma fille dans les mains, je lui dis, mais avant de traverser la rue, regarde à gauche, regarde à droite.
Oui, c'est bien,
mais c'est systématique. Oui. Et je sais que ma fille, aujourd'hui, elle le fait. De toute façon, dès qu'elle entend un bruit de voiture, maintenant, elle se recule et elle se plaque un peu contre le mur. Quoi.
Ah oui,
mais là, ça, traverser la rue, c'est systématique. Après, expliquer les choses, c'est... l'enfant est intelligent. Quand on lui explique les choses et que c'est logique et que ça se tient... il nous écoute, j'ai l'impression. Moi.
Oui,
c'est mon cas
personnel.
On peut expliquer en différé.
Oui, voilà, c'est ça, dans certains cas. Mais pour revenir juste, une petite remarque pour traverser la rue, les enfants, avant 7-8 ans, ils n'ont pas la vision de côté. Donc, de toute façon, il faut vraiment, à ce moment-là,
tourner
qu'ils tournent la tête, parce que sinon, ça ne marchera pas. Quoi.
D'accord. Et que le papa soit carrément un papa poule avec son enfant parce qu'il a eu sur le tard. Je comprends ça.
Ouais, enfin, dans le cas.
Pourquoi obligatoirement parce qu'il l'a eu sur le tard aussi.
Oui.
Bah oui.
Bah, peut-être parce qu'il a été désiré depuis plus longtemps.
C'est possible.
Il n'y a pas de raison qu'il soit gâteux parce qu'il est plus âgé que sa femme. Avec l'enfant, enfin.
Ouais, d'accord, gâteux avec son enfant. Ouais.
Oui, gâteux. Oui. Non, ouais, oui. Gâteux avec son enfant. Il y a pas, il y a pas de, il y a pas de raison.
Non, non.
Mais...
Bah ouais.
Et qu'est-ce que vous en pensez de l'image du que dans la famille traditionnelle, c'est le père qui a l'autorité.
Je sais pas c'est... si c'est
la voix.
Enfin, c'est le père. On lui donne.
C'est peut-être la voix qui est grave, qui est de plus.
Ah oui, peut-être.
C'est pas une autorité naturelle, c'est juste une voix qui est plus grave et qui permet des fois de juste en élevant un peu plus la voix, d'avoir un peu plus de
l'intention.
Une intonation qui fait que c'est peut-être plus facile pour le papa des fois de poser les choses. Mais
Je pensais pas que c'était par rapport à la voix, mais
bah, oui. Moi, je vais faire une comparaison qui va te faire hurler. Je sais que moi, j'ai des chiens et des chats à côté de chez moi. Quand, par exemple, ils viennent chez moi, ils font des crottes et tout le tralala. Quand je veux les virer, je claque des doigts et je dis « Toi, tu files maintenant !» Mais je sais quand ma fille, par exemple, je n'ai pas envie qu'elle fasse quelque chose, je claque pas des doigts, mais j'ai un peu une intonation... comment on va dire
oui, un peu autoritaire quoi.
Voilà, enfin, un peu autoritaire. Ouais. Et je sais que ma fille, clac, ça l'a. Bon. Et puis après, c'est peut-être que j'ai été. Je sais que ma fille, elle repoussait. C'est un sujet que tu vas aborder tout à l'heure, mais elle repoussait l'heure du coucher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus.
Ah oui, garde-nous-en pour tout à l'heure alors.
Ok, bon, je dis. Et j'ai fait une action bien précise. Et je sais que depuis ce jour-là, ma fille l'a intégrée. Et elle sait très bien que quand je commence à avoir peut-être certains yeux ou une certaine intonation dans la voix, elle se dit oula, là, papa, il rigole plus. Je vais l'écouter.
Oui. Mais est-ce que c'est pas pareil avec la maman? Les mamans aussi, on peut.
Oui, mais la voix ne sera pas la même.
Ah oui, c'est pas la même voix, ça c'est sûr.
Il y aura moins de puissance dans la voix. Ma femme a autant d'autorité que moi sur les petites. Mais il y a certains moments où on est obligé de dire stop. Si on dit stop avec une voix grave, un vrai stop, on a une espèce d'effet immédiat. C'est la seule différence, je trouve, qu'on peut avoir avec les mamans. Hein.
Bon, moi je sais qu'après, peut-être ma compagne, elle discute plus, elle essaye de plus négocier avec l'enfant. Avec ma fille, que des fois, je suis peut-être un peu moins patient. Je ne sais pas.
Mais chacun son tempérament. Mais en fait, tous les deux ont quand même l'autorité.
Ah oui.
Parce que dans l'exemple de Dolto, qu'un enfant un petit garçon de 3 ans refuse tout ce qui vient de ses parents, c'est quand même...
Après, pour reprendre l'exemple, j'en parlerai à papa. Ouais. Ça nous arrive à tous les deux, ma femme et moi, de dire j'en parlerai à papa femme de dire j'en parlerai à papa. Donc, il y a les
deux. Oui, mais c'est les deux. Parce que là, dans le cas, je disais, c'était vraiment... c'était quasiment tous les jours que le père rentrait et qu'il était obligé de jouer au père fouettard. Tu vois.
Non, c'est pas du tout l'idée.
Mais c'est vrai aussi, c'est important que les parents soient au courant de ce que font les enfants et qu'ils sentent que les enfants sentent que justement il y a une
cohésion.
Une vraie cohésion, c'est très
important parce qu'autrement, ça échappe vite, j'ai l'impression.
C'est sûr. Hein.
Alors, non seulement ça échappe vite, mais je pense que les enfants, ça les rassure.
Oui.
Complètement.
Qu'il y ait une vraie cohésion, ça veut dire que papa et maman sont d'accord, papa et maman...
Oui, ça veut dire aussi qu'il y a de l'amour dans le couple.
C'est
enfin,
ça. Papa et maman s'aiment.
Oui, puis moi, il y a ma mère qui faisait partie du corps enseignant qui me dit qu'un enfant, quand il est tout jeune et même un petit peu après, a besoin de savoir à un moment où les limites sont posées. S'il ne le sait pas, il est un peu perdu et il va chercher toujours de plus en plus loin.
C'est ça, il va
toujours
pousser de plus en plus loin,
de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et donc, ça va créer des énervements et puis des fois des situations pas sympathiques.
Et oui, c'est sûr.
Voilà, on s'est mal crié.
Bon.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur, soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie. Un enfant contre soi.
Voici donc la fin de la première émission avec nos papas bienveillants, Christophe et Sylvain. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Au revoir. L'éducation buissonnière, une émission qui traite de la transmission culturelle entre les générations, passées et présentes, autrement dit, d'éducation.